Bien, bonjour à toutes et tous. D'abord, on a oublié de vous distribuer à l'entrée la traduction des intertitres La Mélodie du Monde. C'est une copie, je profite pour le dire, c'est une copie 35 mm qui nous vient des archives Murnau de Wiesbaden. Donc je crois qu'on va se régaler. Hein, et on est très content de pouvoir vous montrer les films sur leur, quand c'est possible, leur meilleur support. Donc voilà, vous allez recevoir un polycopier comme cela, une photocopie avec les rares intertitres, mais ça nous semble bien sûr important de les porter à votre connaissance. Ça fait un peu comme un prof qui distribue les copies. Ça va, Pierre, ça va plaire à Pierre Bergugno, ça. Je voulais... Oui, je crois que c'est pas très... Covid. Je ne sais pas si on respecte tout à fait le protocole sanitaire, mais bon, on en saura plus ce soir, je crois. Donc, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que de vous tenir informé, bien sûr, pour la suite des projections, pour la suite de ce cycle aussi, mais aussi de l'ensemble de notre programmation, qui évidemment est suspendue aux annonces de ce soir. Enfin, sans rentrer dans le détail, on va se réunir demain, notre petite équipe de programmation, pour voir s'il est possible de maintenir des choses. Et bien sûr, on s'efforcera bien sûr de le faire si c'est possible. Voilà, en tout cas, merci de votre présence pour cette deuxième séance de nos ciné-conférences. Donc, on a le très grand plaisir. D'accueillir Pierre Bergugno. On est très, très heureux de l'accueillir, aussi pour lui-même, bien sûr, mais aussi parce que dans nos intentions, il y avait l'idée d'inviter des gens de cinéma, des réalisateurs, comme la semaine dernière André Udjika, mais aussi des paroles qui ne sont pas issues du seul sérail cinématographique. Et Pierre Bergugno, c'est assez difficile de le présenter succinctement, mais Pierre Bergugno est écrivain et ses écrits contiennent une œuvre romanesque très, très importante. Également son journal, hein, qui est publié qui est commencé depuis 1980 et qui, dont les publications s'espacent par tranches de 10 ans, je crois. Il y a également des essais sur différents écrivains, des essais littéraires. Et puis Pierre Bergugno est un enseignant retraité. Et puis également, vous allez certainement vous en rendre compte, un grand connaisseur d'art africain. On a déjà eu, surtout Stéphane et Pierre Bergugno, un dialogue à bâton rompu sur tout cela. Voilà, et donc Pierre, je vous invite à éventuellement me rejoindre, ou alors on lance les projections et puis on lance. Donc on lance d'abord deux films qu'on a choisis ensemble. Hein, et peut-être que Pierre Bergugno s'en expliquera aussi de ce choix et de la façon dont il s'est fait ensuite. Donc La Mélodie du Monde de Walter Ruttmann, un film de 1929, qui est un des premiers documentaires sonores, bien que muet, puisqu'il y a des intertitres. Et puis Les statues meurent aussi de Ghislain Cloquet, Chris Marker et Alain René. Voilà. Ben, on vous souhaite une très bonne projection, puis on retrouvera Pierre Bergugno pour cette intitulée que je trouve très beau, hein, L'intrusion du grand dehors. Voilà. Bonne projection, à tout à l'heure.
Bonsoir à toutes, à tous. Je voulais vous présenter quelques légères excuses pour le morceau que je vous ai infligé pour commencer, vous savez, le film de Ruttmann, qui est un morceau nonagénaire, lourdement didactique, passablement emphatique, et qui plus est, ou qui mieux est, en noir et blanc. Alors les raisons que je pouvais avoir de souhaiter découvrir, je n'avais jamais vu ce film, tiennent à ce que je suis devenu, à mon corps défendant, quelqu'un d'un certain âge, qui a découvert le cinéma par le truchement de documentaires comparables à celui de Routman. À l'âge s'ajoute ce handicap que constitue le fait d'avoir eu le jour dans une province lointaine de la périphérie. Et enfin, un moment dont témoignent ces documentaires, qui est l'immédiate après-guerre. Il y a là une triple conjonction qui était quelque peu funeste et qui faisait de ces films, lorsque, une fois par mois, le samedi, au cinéma de la sous-préfecture, on les voyait, une inoubliable fête. La France d'alors est, pour la rime, patriarcale, rurale, coloniale et, pour une partie d'entre nous, cantonale ou départementale. On ne sait rien de ce qui se passe au-delà des limites de l'arrondissement ou du canton. Faites un effort pour vous imaginer un monde où la télévision n'existe pas. Les livres ne parviennent pas, à moins qu'on ne les commande, à part bon, quelques succès annuels de librairie pour les prix, si l'on a la prétention de parfaire l'étude de quoi que ce puisse être. Il faut se rendre à la librairie et passer commande d'un ouvrage qu'on recevra dans la quinzaine qui suit. S'ajoute encore à cela le fait que le pays est encore exsangue, convalescent. On n'a pas donné un coup de peinture depuis 30 ans pour les générations pléthoriques qui arrivent. Ce qu'on appelle le certificat d'études primaires constitue l'horizon de la scolarité. On quittera l'école à 13 ans pour embaucher. Enfin, et ça n'est qu'après être parti que j'ai pris la mesure de ce que cela signifiait. Partout dans toutes les provinces, dès qu'on s'écarte un peu des agglomérations moyennes, s'il s'en trouve, on parle des dialectes. Tout le temps que j'ai été enfant, lorsque je m'écartais de la sous-préfecture natale, j'entendais parler l'occitan, qui est un dialecte dérivé comme le français d'Île-de-France, du latin, mais qui en est suffisamment différent pour que des gens de Paris, par exemple, débarquant chez nous, ne comprennent à peu près rien à ce que nous racontions, alors que la réciproque n'était pas vraie. On comprenait le français puisqu'il était obligatoire à l'école depuis les décrets Jules Ferry de 1880-82, mais permettez-moi une allusion un peu sarcastique, on trouvait que les gens de Paris parlaient bizarrement, ils parlaient pointu. Et alors, naturellement, on riait sous cap de cette façon très, très particulière, tout à eux, de pratiquer le français. Donc le cinéma, le film de Routman présente une vertu à laquelle vous n'êtes peut-être pas très sensible, mais que, j'insiste, mon âge me rend éminente. Jusque dans les années 20, on n'a pas compris qu'il faut, je crois, 24 images secondes pour que le cinéma soit vraisemblable, pour que l'image épouse en quelque sorte la réalité, ou si vous préférez, pour qu'elle se fasse oublier comme image et nous laisse l'impression, le sentiment que c'est au réel que nous avons affaire. Lire, regarder un film présuppose, généralement à l'insu du spectateur ou du lecteur, un acte de foi. On croit en la réalité de ce que nous disent des caractères imprimés noir sur blanc sur du papier, ou des images en noir et blanc ou en couleur qui se succèdent sur un écran. Or, jusqu'aux années 20, il est impossible de croire à ce que nous montre un film. Je suppose que tout le monde a vu, ne fût-ce que l'espace de quelques courtes secondes, quelques images des commencements du cinéma, et en particulier des images tragiques, terribles, par exemple celle de la mobilisation de 1914. On voit les troupes défiler dans Paris avant de se porter sur les frontières, de monter au front. Les soldats ont des mouvements d'automates, on dirait des marionnettes. C'est saccadé, pardonnez-moi, c'est grotesque. On ne croit pas, enfin, il ne se peut pas que cela représente la réalité dont j'ai l'expérience, et l'expérience, c'est le certain, n'est point telle. Et puis à partir des années 20, dans le courant des années 20, je suppose, deux choses se produisent à peu près simultanément. La première, eh bien, c'est qu'on se rend compte que sous la réserve de passer 24 images à la seconde, l'impression que laissera, que procurera le film sera exactement celle que nous laissent les êtres de chair et de sang parmi lesquels nous évoluons dans la vie. Le deuxième élément, c'est le parlant. La bande sonore se met à exister, ce qui fait que le deuxième facteur d'invraisemblance, qui était les gestes outrés, les mimiques exagérées que devaient adopter les acteurs du cinéma muet, sont devenus superflus, puisqu'ils parlent, puisqu'on les entend. Et de cette époque, me semble-t-il, date le cinéma tel que nous l'entendons, tel à la limite que son étymologie le dit, l'art du mouvement. Oui, on peut saisir le mouvement, et avec une exactitude si grande que souvent, lorsqu'on est au cinéma, on prend pour bon ce que l'on nous montre, et on est cramponné aux deux bras de son fauteuil, plein d'effroi, plein d'émoi, lorsque les images que l'on voit, qui ne sont pourtant que des jeux de lumière sur un écran, ont su nous persuader qu'au fond, elles étaient la réalité. Il y a un troisième élément qui m'a paru digne d'attention dans cette mélodie du monde de Routerman, et c'est le noir et blanc. Alors je pense que la couleur doit arriver dans les années 50, et je garde en particulier le souvenir des premiers péplums ou des premiers westerns en Eastman Color, en Technicolor que j'ai vus, et dont les couleurs, par mesure compensatoire peut-être, étaient elles aussi outrées, vireuses. Par exemple, le rouge tiré sur le violine, les verts étaient presque bleus, le héros et l'héroïne, à force de fond de teint, ou parce que la pigmentation n'était pas bonne, avaient un teint presque brûlé, comme s'il rentrait des sports d'hiver ou des vacances d'été. Le noir et blanc exerçait, à l'insu des spectateurs que nous étions, surtout les plus jeunes, un effet très étrange. Alors, dans un premier temps, je n'y ai pas fait autrement réflexion. Le monde se donne dans un premier temps sous les espèces et les auspices de l'évidence. Et ça n'est qu'après, qu'en grandissant, qu'en vieillissant, on se fait rétrospectivement des questions. Mais qu'est-ce que c'était? Mais qu'est-ce donc qu'il s'est passé? Donc, on entrait au cinéma, c'est le samedi soir, invariablement, il y a des sièges en peluche rouge, des ouvreuses qui portent un uniforme, un rideau cramoisi comme au théâtre. Et puis, on va avoir soit un documentaire, soit les actualités Pathé-Gaumont. Alors, pour parler comme un Parisien d'il y a longtemps, c'était bonnet blanc et blanc bonnet. À savoir que quoi que ce soit que l'on nous montre, soit dans le film documentaire, soit aux actualités, il semblait que partout ailleurs, hors de notre petit canton fortuné, on ne sait trop qui avait oublié de donner des couleurs au monde. Il n'y avait que nous pour habiter un univers chromatique. Et comme on n'avait pas la possibilité de voyager, de circuler, de vérifier la conformité des images aux choses. Par exemple, c'est une époque où, en l'absence de télévision, il n'y a pratiquement pas de voitures. Elles vont manquer pendant une quinzaine d'années parce que les usines qui les produisaient ont été écrasées par les bombardements. Beaucoup d'ouvrages d'art, de ponts, par exemple, sont encore détruits. Certaines lignes ferroviaires sont interrompues. Il est donc impossible de se faire une idée de ce qui se passe au-delà des limites fort exiguës de la vie que nous avons, autrement que par le moyen des livres ou de ces images en noir et blanc qui nous parviennent des lointains. Donc, longtemps, et pour les gens de ma génération, de ma sorte, le monde, au-delà du cercle verdoyant que nous occupions, était comme baigné d'une clarté d'éclipse. Il semblait abandonné du soleil. Ses habitants nous semblaient vivre en octobre, vers 6 heures du soir. Je vous livre les choses telles que je les ai senties et j'applique le principe de médiocrité, ce qui vaut pour moi, vaut pour mes semblables et réciproquement. Ça a été lorsque les voitures sont remises à circuler, à pulluler, une sorte de révélation que des lieux célèbres parce que je les avais vus au cinéma, mais où je n'avais jamais mis les pieds. Je prends deux ou trois exemples idiots. Saint-Tropez, où se retrouvaient les stars ou les starlettes de cinéma. La Lorraine métallurgique, le port de Concarneau où l'on pêchait la sardine. Eh bien, ces endroits étaient aussi richement colorés que celui que j'avais habité. Et où, par la magie, par la grâce du cinéma, je les avais découverts. Mais dans cette espèce d'univers d'automne, où ils semblaient excommuniés et à jamais relégués. Découvrir le vaste monde avait un prix, une contrepartie. C'est sous des espèces décolorées, un peu chlorotiques, de demi-saison qu'il arrivait jusqu'à nous. Mais bon, c'était une avancée décisive que celle qui était permise à nos esprits lointains de réaliser grâce au septième art. Alors j'en viens à la contrepartie de la contrepartie et j'ai nommé Paris. Alors je ne peux pas ne pas naturellement y faire allusion. Ne fût-ce que parce que, contre toute attente, j'y suis. Il y a un film qui doit être daté de 56 ou 57, qui s'appelle Le Tracassin, dont l'acteur principal s'appelait Bourville, et l'actrice, je crois, Pierrette Bruno. Alors, ça représentait la vie à Paris. Alors, les gens sont toujours pressés. Naturellement, ça se passait dans du gris. Les gens étaient toujours pressés. Ils ne trouvaient pas où se garer. Quand ils revenaient chercher leurs deux chevaux, il y avait une demi-douzaine de PV sous l'essuie-glace. Ils mangeaient à midi au zinc d'un bistrot serré comme des sardines. Lorsqu'ils rentraient chez eux, ils habitaient un cinquième étage sans ascenseur. Et au dîner, ils prenaient des calmants. Bon. Donc je dois avoir, je ne sais pas, 7, 8 ans. Je regarde ça d'un œil légèrement écarquillé, Et sur un ton pénétré, avec la voix du dedans, je me dis à moi-même, Paris, j'irai jamais. Je leur abandonne ce gris, cet automne éternel auquel ils sont condamnés, cette hâte, cette presse, ces soucis, ces anxiolytiques dont ils ont besoin pour ne pas craquer. Et puis le destin est railleur. Une douzaine d'années plus tard, j'ai empoigné la main courante en acier inox de l'express Vert-Bouteille de deuxième classe qui menait de ma sous-préfecture natale à la gare d'Austerlitz et j'ai pris pied à Paris. Comme je vous l'ai dit, j'étais prévenu grâce aux actualités pâtées. Je ne sais pas si elles existent toujours d'ailleurs. Je n'en vois plus trop l'utilité puisque tout le monde a la télé. Donc, les actualités pâtées résumaient les événements du mois. Alors, on avait généralement un petit reportage sur une ville de province, mais l'essentiel du quart d'heure que cela durait était consacré aux événements naturellement centraux, importants, dont Paris était le théâtre et le siège. Alors, le président de la République reçoit un homologue étranger, on voit les gardes républicaines, sabre au clair, sous le casque des cuirassiers, sur le perron de l'Élysée, le salon de l'automobile avec la DS19, le salon d'électroménager, le défilé du 14 juillet. Tout ça, naturellement, en noir et blanc. Donc, j'arrive la bouche en cœur en gare d'Austerlitz. Je m'attendais à refaire la même expérience que sur les sites métallurgiques lorrains, à Concarneau ou à Saint-Tropez. C'est-à-dire à découvrir que Paris, plus que tout, débordait, resplendissait d'éclatantes couleurs. Et quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que, par exception, par extraordinaire, les images en provenance de Paris étaient rigoureusement homogènes à la teinte véritable, je m'avance un peu, d'un gris très doux, un peu officiel, qui est celui de la capitale. Par exemple, c'est le zinc des toits. Descendez un peu au sud, montez au nord, vous ne verrez pas de toit de zinc. La pierre de Paris qui est magnifique, qui est claire, qui se taille, se sculpte magnifiquement et ne contribue pas peu à la stricte splendeur de la capitale. Les Parisiens sont vêtus de couleur terne, gris. Leur visage est un peu gris aussi, parce que l'air n'est pas bon, ou il est moins bon que dans nos campagnes. La Seine, qui est calme, roule des eaux grises, comme l'est souvent le ciel de Paris. L'eau des bassins aussi, l'eau captive des bassins. Les pigeons sont gris, gris, gorge de pigeons. Ce sont des expériences qui comptent. Pour ceux qui ont vu le jour à la frontière des âges et aux marges du pays à l'époque où un géographe qui s'appelait le nom me reste Gravier avait publié un livre dont le titre était Paris et le désert français. Nous sommes les derniers à avoir accédé, j'hésite à employer un aussi grand mot, à la conscience de l'universel, du monde. Longtemps, on était victime de ce qu'on appelait l'esprit de clocher. On ne sortait pas, on ne bougeait pas, on jargonnait notre patois. Le mot patois, c'est le parler à grosses pattes, le parler pâton. Ça veut dire qu'on ne comprenait pas les gens du dehors et les gens du dehors ne nous comprenaient pas. Et brutalement, parce que la paix est enfin redescendue sur le monde, après l'abomination de la désolation de la première moitié du siècle dernier, c'est un véritable déversement de cornes d'abondance qui se répand sur nos têtes. Je le dis du haut de l'âge qui est le mien, on a tout eu. Tout ce dont nos prédécesseurs immédiats n'avaient jamais eu, ne fût-ce que l'avant-goût, l'abondance, l'instruction, la liberté de mouvement et d'expression. Tout cela par l'effet d'une sorte d'éclaircie miraculeuse nous a été concédé. Et au nombre de ces faveurs, ce cinéma enfin adéquat aux choses qui nous montrent, ces documentaires en noir et blanc, dont je pense que l'absence de couleur ajoutait encore à leur magie. L'époque était encore obscurcie par ce qui avait précédé, par les combats d'arrière-garde que le colonialisme français livrait un peu partout, en Indochine, puis en Algérie. Et en même temps, mais comment l'imaginer ? Nous marchions vers ce printemps des années 1960, dans le joli mois de mai 68, a été la fête et le couronnement. Le documentaire de René et Marqueur est tout autre. J'aurais dû préciser que Ruttmann est mort à 45 ans, je crois, ou un peu plus, mais pas tellement, en mai 1941. Et son dernier film est un documentaire sur la fabrication des tanks allemands, des Panzer. Vous avez noté, peut-être, ça dure très peu, mais on le voit, la présence des fascistes italiens. On voit un chemise noire en train de faire le salut fasciste. Et on voit passer déjà les groupes d'assaut, les SA. Et on est en 1929, donc 4 ans après la parution de ce film. Adolf Hitler accédera à la chancellerie du Reich. Le film de René et de Marker est de 1953. Avec la meilleure volonté, j'étais un peu jeune, j'aurais été bien en peine de le voir, puisque vous savez qu'il a été interdit dès sa parution en 1953 et que la censure dont il avait fait l'objet n'a été levée qu'en 1964, c'est-à-dire quand l'actualité brûlante, la décolonisation à laquelle il se réfère en troisième partie, eut basculé au passé. Alors, son intérêt me semble des plus vifs. Et d'abord, ce fait qu'il est consacré à ce que, le mot avait cours encore, à ce qu'on appelait depuis le début du siècle l'art nègre. Il a fallu prendre un certain recul avant de mesurer véritablement l'énorme bouleversement contemporain de ce qu'on appelait les années folles. Il n'y a peut-être jamais eu d'heure plus féconde, plus lourde de conséquences et de bouleversements que les 10 années qui vont de 1900, précisément, au 3 août 1914. C'est un bouleversement complet de la civilisation matérielle, morale, esthétique, économique, politique, musicale, intellectuelle. Ça se fait en 15 ans. Je ne sais pas par où commencer. Enfin, si on peut commencer par la conjoncture politique. La révolution est à l'ordre du jour. En 1902, un type qui s'appelait Vladimir Ilitch Ulyanov, publie sous le pseudonyme de Lénine un texte très court qui s'appelle « Que faire ?» À peu d'années se suivront l'État et la Révolution et l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, qui est de 1916. Et en novembre 17, Oulianov et ses camarades s'emparent du palais d'hiver à Saint-Pétersbourg et créent le premier État socialiste de la Terre. Le nommé Oulianov, qui a mené la vie errante, traquée des révolutionnaires, des prophètes, séjourne un certain moment à Berne. Ça n'est pas une bien grande ville et il ne peut pas ne pas croiser dans les rues de Berne un autre jeune homme. Ils sont tout jeunes, c'est des gamins de 25, 30 ans. C'est des gosses. Ils ont l'âge du siècle à peine. Un jeune employé du bureau des brevets qui s'appelle Albert Einstein, lunatique, qui se renseigne sur ce qui peut s'écrire en physique et prend connaissance d'une expérience vieille de 20 ans tentée par deux Américains, Michelson et Morley, qui sont évertués à apprécier les différences de vitesse de propagation de la lumière et ont échoué. Bon, ils échouent. En vérité, ils n'ont pas échoué. Ils ont constaté un fait dont ils n'ont pas mesuré les conséquences. La lumière de la vitesse est invariable. De sorte que, pour équilibrer, puisque c'est invariant, les équations de la physique, il faut que le temps et l'espace, que la plus forte tête philosophique de l'Antiquité, Aristote, avait posé comme immuable, varient, deviennent relatifs. Et dès 1905, le jeune Albert Einstein avance la théorie de la relativité restreinte. Il faudra quelque temps pour lui imprimer un caractère général. Toujours dans les mêmes eaux, en 1900, pile, un médecin autrichien qui s'appelle Freud, Sigmund Freud, donne à la presse un livre qui s'intitule « L'interprétation des rêves », qui ne connaîtra qu'une seule recension. Nous sommes aveugles et sourds, continuellement. Personne, absolument personne, si, pardon, un lecteur un peu distrait de je ne sais trop quelle revue médicale, bon, consacre 15 lignes à cette publication. Or, Freud vient de découvrir l'inconscient. Et lui aussi s'en retournera à l'Antiquité avec le complexe d'Oedipe, qui est le pilier central de cette théorie. Un Allemand encore, qui s'appelle Edmund Husserl, et qui était, comme Freud, l'élève de Brentano, crée ce qu'on appelle la phénoménologie et avance les deux propositions renversantes que je vous livre. La première, le monde est une prestation subjective. Freud met en l'honneur le travail de l'esprit, comme Freud désigne derrière les jeux lumineux scintillants de la conscience, les grandes ombres dont nous sommes environnés et comme les petits enfants en peur feignons de ne pas voir. Husserl ajoute, le monde est un problème égologique de caractère universel. Alors vous allez me dire, bon, c'est les Allemands. Je sais, oui, les Allemands sont les spécialistes de la philosophie, des généralités plus ou moins fumeuses. En France, si, c'est comme ça. Et c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Bon, mais en France, on a une tradition, c'est la littérature. Alors un garçon qui s'appelle Marcel Proust se met au travail et dans sa chambre tapissée de liège, saturée de fumigation, dresse au seuil du siècle dernier cette cathédrale qui s'appelle « À la recherche du temps perdu ». C'est pas tout. Paris, c'est pas parce que j'y suis que je le dis, était la reine du monde. Je m'avance un peu. Bon. Paris est la reine du monde. Quiconque veut faire œuvre dans quelque partie que ce puisse être, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, doit prendre la route de Paris. Tous les chemins mènent à Paris. De jeunes plasticiens qui s'appellent Picasso, je crois que c'est un espagnol, Soutine, Chagall, c'est des Ukrainiens, Modigliani, c'est un Italien, etc., etc. Raplink, à 20 ans, 25 ans à Paris, vivent misérablement dans des galetas, sous les toits, crèvent de froid l'hiver, crèvent de chaud l'été, mais inventent l'art moderne, comme Apollinaire, d'origine polonaise, invente la poésie moderne à Paris. Et chose troublante, ils vont bénéficier des retombées de l'impérialisme dont je parlais tout à l'heure à propos de Vladimir Ilitch Ulyanov. L'impérialisme constitue le stade suprême du capitalisme en ce qu'il renverse littéralement ce qui caractérisait le régime initial de celui-ci, c'est-à-dire la concurrence. Ce qu'on appelle l'impérialisme, c'est l'ère des monopoles, des entreprises industrielles géantes, secondées par d'énormes banques, conquièrent tous les marchés, et en particulier pour s'assurer au meilleur prix un approvisionnement régulier en matières premières, s'annexent ce qu'on appelle pudiquement les territoires agraires inexplorés. Alors, l'exploration des territoires agraires, ça veut dire en gros qu'on envoie l'infanterie de marine partout où il reste quelques pouces carrés de terre qui ne sont pas sous domination européenne, allemande, surtout française ou surtout anglaise. Et accessoirement, ben on rafle ici et là soit les trésors de l'art de cour qui étaient surreprésentés dans le film de Marker et de René Lard, de la Nigeria et du Bénin, la cour d'Ifé, et puis Abomey. Soit, avant de foutre le feu au village de ce qu'on appellera par la suite l'Afrique occidentale française, puis l'Afrique équatoriale française, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon, etc. On rafle les fétiches enduits de sang sacrificiel, de suie et d'huile de palme, et lorsqu'on est de retour à Paris, on les échange contre, mettons, deux bouteilles de gnôl ou de tafia avec le patron du bistrot où on a ses habitudes, ou avec un brocanteur. Pardon, et là, ça va mieux. Je vous prie d'accepter mes excuses les plus plates. Ce sont ces jeunes peintres qui ont inventé l'art nègre. Et l'art nègre a littéralement infiltré, fécondé, éclairé leurs œuvres. Deux, trois tableaux célèbres. Le tableau de Picasso qui s'appelle « Les demoiselles d'Avignon ». Si on regarde bien le visage de ces demoiselles avignonnaises, ce sont des masques maungwe du Gabon. Matisse a laissé un portrait de sa femme. On voit comment, sur ou en sous-imposition, un masque pounou. Il y en avait un dans le film de René, que d'ailleurs René et Marker comparent à un visage japonais. Je pense que c'est Juan Gris, mais je n'en suis pas sûr, qui avait découvert, on le voit aussi dans le film, les reliquaires Bakota, qui coiffent les paniers à ossements dans lesquels ces populations nomades emportent les restes de leurs morts. Lorsque un groupe de Fang, par exemple, ou de Kota circule dans la grande forêt pluvieuse, les femmes sont chargées des enfants et du léger mobilier de ces populations errantes. Les hommes ne portent rien que la sagaie pour être prêts à intercepter toute bête sauvage qui surgirait là inopinément du fourré, et puis un curieux panier, comme un sac à dos, comme un cartable d'élève de sixième, mais coiffé soit d'une étrange figure avec un cimier et des ailes, le tout recouvert de cuivre et de laiton, soit une sorte de poupée merveilleusement potelée qu'ils appellent le Bierry. Voilà. Donc, le film de Les statues meurent aussi vient à point nommé pour ouvrir les crétins ruraux dont je suis à la splendeur, à la gloire, à la magnificence, à la liberté de l'art nègre. J'ai oublié de mentionner, mais j'y serai demain, la révolution opérée par toujours un type en provenance de l'Est, qui s'appelle Stravinsky, et qui fait donner le Sacre du printemps, je crois que c'est en mai ou en juillet 1913, au théâtre des Champs-Élysées, qui est d'ailleurs toujours là. Donc voilà ce grand bouleversement de la civilisation qui se produit à ce moment-là. Et naturellement, on peut souhaiter passionnément d'être le contemporain de son temps et voir de ses yeux ces merveilles. Donc, il s'écoule, mettons, une quarantaine d'années. Deux jeunes, c'est les jeunes gens, les jeunes femmes qui inventent le monde. Renée devait être de 21 ou de 22 et Marquère de 22 ou de 21. Enfin bon, ils ont le même âge. Ils échappent par miracle à la Deuxième Guerre, ils sont un peu trop jeunes pour être mobilisés. Mais ils sont de plein pied avec l'après-guerre et donc considèrent que c'est un fait acquis que la présence dans les sociétés développées de ces fétiches qu'on commence à s'arracher à prix d'or. Et estiment qu'ils sont dignes d'être filmés, commentés. Je voudrais attirer votre attention sur un fait qui ne m'a frappé qu'assez tard. Ceux qui ont inventé l'art nègre, les arts dits premiers aujourd'hui, appartenaient curieusement aux deux extrémités du spectre ou du monde social. D'un côté, ce sont de jeunes artistes plus ou moins révoltés qui mènent cette vie assez peu régulière. Ce qu'on leur reproche. Mais ils vivent autrement, donc ils voient autrement. Ils voient autrement les mêmes choses ou d'autres choses qui échappent aux profanes que nous sommes. Mais à ces artistes s'ajoutent, aussi bien en France qu'en Allemagne, des extrémistes de gauche. Par exemple, Félix Fénéon, qui est français et qui était anarchiste. C'est lui qui a annoncé dès les années 20, un jour, ils, c'est les masques et les fétiches, ils entreront au Louvre. J'ai parlé de Albert Einstein, un autre Einstein qui se prénommait Karl, a écrit en 1915 déjà un livre intitulé « Nègre plastique », la sculpture, la plastique africaine. C'était un homme d'extrême gauche. Il a combattu à Berlin en 1918-19 avec les Spartakistes, avec Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Bon, les Spartakistes sont vaincus. Mais Karl Einstein ne baisse pas les bras. Il combattra encore en Espagne dans les brigades républicaines. Elles sont à leur tour battues. Il rentre en France, où il vivait depuis quelque temps. Ses compatriotes, casqués, bottés, armés, envahissent la France. Il avait été emprisonné, comme tous les Allemands, en résidence chez nous. Il s'échappe, mais pour aller où ? Il est interdit de séjour en Espagne et s'il tombe aux mains de ses compatriotes triomphants, il sera exécuté. Donc il va faire comme Walter Benjamin qui s'est suicidé d'une surdose de morphine. Il est à ce moment-là sur la frontière franco-espagnole. Il se rend sur un pont qui surplombe de très haut le gave d'Oloron et se jette dans les eaux. Enfin, et ça me paraît également tout à fait significatif, des femmes, et pas n'importe lesquelles, de puissantes femmes d'affaires, je pense à Peggy Guggenheim et à Elena Rubinstein, l'impératrice de la mode, ont versé une contribution décisive à la connaissance, à la diffusion, à l'appréciation, à l'évaluation de l'art nègre. Lorsque Elena Rubinstein se faisait photographier ce qu'elle faisait assez complaisamment. Elle avait toujours aux mains un, deux, voire trois masques africains. Soit elle veillait à ce qu'il y ait près d'elle, par exemple sur le manteau de la cheminée devant laquelle elle se tenait, quelques figures qu'elle avait en plus particulière affection. Peggy Guggenheim, qui a elle aussi participé activement à la diffusion de l'art contemporain, elle a lancé plusieurs artistes de très grand renom, avait une très très belle collection, à quoi s'ajoute, et c'est à sa gloire, qu'elle s'est dépensée sans compter pour faire venir à New York, de France, où ils étaient menacés, ceux et celles qui étaient ou seraient en délicatesse avec l'occupant lorsque les ennemis du genre humain eurent envahi notre pays. Alors nos deux cinéastes, là, Marker et René. Bon, je baisse un peu la voix. Je trouve le commentaire un peu inégal à l'objet. Et ce n'est ni la faute de Marker, ni la faute de René, mais celle, je dirais, des années 50. Alors, comme j'ouvre des parapluies, un auteur allemand qui est décédé assez récemment, qui s'appelait Peter Kurzeck, qui avait mon âge, a qualifié les années 50 de miteuses. Les miteuses années 50. Oui, c'est une période miteuse. Bon, il y a un tas de raisons à cela. Et d'autant plus miteuse chez nous que nous sommes une vieille puissance impériale, coloniale, et qu'à la différence des Anglais, qui sont beaucoup plus subtils que nous, il nous a fallu 15 ans pour comprendre que l'impérialisme appartenait au passé et qu'il fallait accorder à ces peuples autrefois soumis, colonisés, dominés, leur indépendance et leur liberté. Donc, Marker, René, s'ouvre et nous ouvre à cette splendeur des arts premiers. Les commente, ben, comme on ne pouvait pas, semble-t-il, ne pas le faire dans les années 50, au lieu que, à peu près dans les mêmes eaux, en vérité, un petit peu plus tard, les premières études véritablement convaincantes, bonnes, excellentes, sur les arts premiers, sortiront des presses sous la signature de gens comme le grand sociologue allemand Norbert Elias, ou encore des anthropologues anglais comme Jack Goody. Alors que curieusement, et peut-être par le même effet de la myopie dont nos politiques des années 50 étaient victimes, les ethnographes français ne voient pas en quoi les arts dits premiers témoignent d'un état ou d'un stade de civilisation qu'ils ont assez mal compris. Je prends un exemple énorme. Un ethnographe de l'école de Durkheim, qui s'appelait Lucien Lévy-Brulle, a barbouillé peut-être 5000 pages sur la mentalité primitive, l'âme primitive, les trucs primitifs. Et puis il disparaît et on retrouve une espèce de journal de travail qu'il tenait tout en menant ses recherches et en donnant des cours à la Sorbonne. C'est imprimé au cahier rouge chez Grasset, je crois. Et il constate qu'il a échoué, il n'a pas compris. Il ne voit décidément pas, alors qu'il y a passé une vie, en quoi les non-primitifs que nous sommes diffèrent des primitifs que nous avons côtoyés ou que dans des âges antérieurs nous avons été. La réponse tient en trois mots sous la plume de l'anglais Jack Goody. La différence, elle tient. C'est l'écriture, c'est tout. Nous sommes des sujets graphiques. des sujets d'État, d'État à école, à écriture. C'est tout. Lorsque, il y a 40 ans, 1979, le sociologue Pierre Bourdieu a publié en français le livre de Jack Goody qui s'intitulait, je vais parler anglais, pardonnez-moi, The Domestication of Savage Mind, la domestication de l'esprit sauvage. Bourdieu a rajouté un sous-titre de son cru, la raison graphique. Oui, la raison est un produit de l'écriture, et non pas on ne sait trop quelle faculté abstraite qui serait uniformément répandue. De sorte que dans des sociétés où le type de rationalité graphique n'a pas cours, apparaissent une fécondité, une liberté d'invention dont ne sont pas ou plus capables les artistes européens qui étaient corsetés par l'État, l'académie, l'école, etc., le marché, etc., etc. Donc de tout cela, on a confusément le sentiment à regarder ce film de Marker et René, plutôt que cela n'est dit, mais c'est la vertu de ce film, que d'avoir été tourné en 1953. Maintenant qu'attend la censure, bon, en 1953, le corps expéditionnaire français crée un camp retranché au nord-ouest de Hanoï, dans une cuvette qui s'appelle Dien Bien Phu, en attendant que ce qu'on appelle le Viet Minh, c'est-à-dire en gros la paysannerie vietnamienne, vienne se casser les dents sur un point fort pourvu d'un armement européen moderne, etc. Bon. Et en mai 1954, eh bien, le camp retranché de Dien Bien Phu doit se rendre. À peine l'aventure indochinoise a-t-elle trouvé cette triste conclusion que l'Algérie s'embrase en novembre à la Toussaint 1954. Donc je comprends bien que les gouvernements d'alors envoient passer le président François Mitterrand, tout jeune, dans le film de Marker et René. Je comprends bien que les gouvernements d'alors n'aient pas souhaité que le film de René et de Marker soit distribué, parce que bon, tout le monde l'a constaté. La troisième partie est un réquisitoire un peu fumeux, mais un réquisitoire contre le colonialisme ou le néocolonialisme. Voilà. Donc, imaginez les mois que ça a été, non, que ça aurait pu être, que de découvrir dans les départements ruraux de la périphérie, de quel génie, il n'y a pas d'autre mot, étaient animées ces petites sociétés agropastorales qui, depuis la nuit des temps et sans interruption, avaient inventé des formes en nombre presque infini. On considère qu'il y a 200 styles africains. Sachant que lorsque l'Europe, l'Occident, en prendrait conscience, connaissance, ce serait leur fin. Je me souviens d'avoir entendu, il y a déjà une vingtaine d'années, un historien ou un ethnographe, mais lequel était-ce donc ? Qu'est-ce que la globalisation ? Qu'est-ce que la mondialisation ? Alors on cherche toutes sortes de réponses, et il avait répondu simplement, c'est l'européanisation de la planète. La diffusion partout sur la Terre, des procédés, des techniques, des sciences qui ont été élaborées dans ce tout petit territoire qui constitue l'extrémité occidentale du continent eurasiatique. Voilà, ben j'en finis et je vous remercie.
On va vous faire passer le micro, mais je voudrais, si vous le voulez bien, vous poser une question. Il y a quelque chose qui est similaire dans ces deux films, qui font profession de s'ouvrir avec noblesse et générosité à l'extérieur. Il y a quelque chose qui leur est commun, c'est qu'en fait, ils sont aveugles et fermés à quelque chose que le cinéma découvrira peut-être un petit peu plus tard, qui est le temps. Et ces deux films nous montrent des images de l'extérieur ou de l'au-delà ou de mondes qu'on ne connaît pas encore, mais ils ne sont pas capables de nous montrer le temps. Et donc nous avons des images qui ressemblent un petit peu à des illustrations, à des cartes postales, dans les deux cas. Alors vous, quand vous aviez 7 ans et que vous voyiez ces films en noir et blanc qui ressemblaient au mois d'octobre, est-ce que vous ressentiez cette cruelle absence du temps qui finalement va apparaître, peut-être, enfin qui va apparaître dans nos esprits comme des objets dignes d'attention, comme un objet digne d'attention peut-être beaucoup plus tard, peut-être dans les années 60, peut-être même un peu plus tard. Est-ce que vous avez ressenti ça, qu'il manquait un petit quelque chose qui s'appelle la vie ?
Non, parce que le propre des enfants est d'habiter l'éternité et que notre plus grand malheur est de nous aviser un jour que le temps irréparable passe et nous emporte. Je donnerais tout, mais je pense, chacun d'entre nous, pour retrouver ce qu'on pourrait appeler l'état moral qui est le nôtre entre, il faut être précis, 5 ans et demi, 5 ans et 8 mois et... la fin du CM1 ou le milieu du CM1.
Oui, je voulais revenir sur 2 ou 3 points de votre exposé. C'est à savoir, vous dites que les images des conscrits de 14 sont saccadées, mais c'est parce qu'en fait, quand on les passait beaucoup plus tard, ce n'était pas la bonne vitesse. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est 16 images par seconde. Si on les passe à la vitesse de 16 images par seconde, c'est tout à fait fluide. Mais si on les passe, comme ça a été fait beaucoup, et notamment par les films de Charlot qu'on connaissait que de manière saccadée, si on les passe à 24 images seconde, à ce moment-là, ça devient grotesque. Mais ce n'était pas le cas au moment où ils étaient projetés dans les années 10, 20, les années 20. Ensuite, je voulais juste vous dire aussi que Soutine et Chagall n'étaient pas ukrainiens. Bon, c'est Chagall est de Biélorussie, Soutine est de Lituanie. Voilà, bon. Mais c'est l'Empire russe. Si vous dites russe, ça, c'est plus simple, à vrai dire. Et juste aussi pour l'enfance, c'est que j'ai eu une enfance provinciale, puisque de 51 à 69, je suis à Chambéry, en Savoie. Donc, quand vous parlez de la province, vous parlez d'une province, mais pas de la province, parce que moi, je n'ai pas du tout le même vécu. Il y avait 5 cinémas à Chambéry dans les années 60. On voyait tous les films, et c'était une ville de province. Hein. Chambéry, c'était pas Toulouse, c'était pas Marseille, etc. Donc ce que vous avez vécu, c'est une province, mais pas la province. Voilà.
Il me semble que Ruttmann, il avait un côté un peu poétique, qui vient de l'abstraction, et que dans la frénésie des images qu'on voit dans son film, là, il y a la question de la synesthésie, où le son est toujours accordé à l'image, où il y a une véritable poésie de la rapidité, du montage, je sais pas, il n'y a pas forcément un sens évident, mais du coup la question du temps, moi je la retrouve plus dans l'abstraction éventuelle, alors qu'il y a de la figuration. Et il y a la phrase d'Oscar Wilde que j'ai pas tout à fait retenue, mais pour moi c'est un peu ce qu'elle veut dire. Attendez, j'ai la feuille, juste là. Oui, le vrai mystère du monde est le visible, pas l'invisible. Oui, voilà, je trouve que ça résume assez bien la question du temps dont vous parliez, qui n'est pas forcément substantiel. Voilà. Peut-être pas. J'aimerais bien savoir, dans ce cas-ci.
Oui, je ne peux que vous donner, moi, l'assentiment, oui. Oui.
Donc, puisque ces films qu'on a choisis par un échange, c'était au printemps dernier, à la fin du printemps dernier, ce sont des films que vous n'avez pas vus dans votre jeunesse provinciale, dans votre province, la vôtre, pas celle des autres. Est-ce que vous avez un de ces films documentaires en noir et blanc que vous avez vraiment vu et qui vous a procuré comme ça cette impression de que le grand monde, le grand dehors vous apparaissait? Est-ce qu'il y a un souvenir comme ça pour...
À ce degré-là, je veux dire, au degré où aussi bien le film de Ruttmann que de Marker et René, non, non. En revanche, c'était des séquences, 10 secondes ici, une demi-minute là, qui, d'un seul coup, brisaient la muraille de l'éloignement, de l'isolement, de l'ignorance, et ouvrez sur le vaste monde le vrai. Un jour que seul le cinéma pouvait y répandre, y donner. Il y a autre chose que j'aurais dû dire. J'ai hésité. Alors, parmi mes petits voisins, mais dans un âge antérieur, il y avait un garçon qui s'appelait Montaigne, Michel de Montaigne, c'est un gascon. Et il y a toutes sortes de phrases de lui, toutes plus savoureuses l'une que l'autre. Et l'une me reste, que je vous livre, « L'ignorance est un molle oreiller ». Oui, un autre philosophe qui l'a suivi d'assez près, on en a quatre, c'est bien facile, qui s'appelait René Descartes, qui, à un moment donné, ne croit pas ne pas pouvoir citer une formule de l'Ecclésiaste qui accroît son savoir, augmente sa douleur. Alors, il est très vrai que c'était une joie, une fête, une extension d'être que de découvrir assez tôt qu'il existait quelque chose qui s'appelait l'art nègre, les arts premiers, et qui réjouissait par sa liberté, son inventivité. Mais, et bon, il semblerait que soit là quelque chose de proprement consubstantiel à l'humaine condition, si les petits Occidentaux, les petits Européens, les petits Français que nous étions découvraient, émerveillés, ravis, transportés, la splendeur de leur nègre. Alors il fallait qu'ils apprennent, qu'ils sachent que derrière cette invention, cette découverte, il y avait l'invasion, la colonisation de tous ces pays qui ne demandaient qu'à vivre indépendants et libres. C'est pour ça qu'il y a cette gorgée de poison qu'il faut avaler dans la troisième partie du film de René. Et c'est pour ça que la commission de censure l'a interdit de projection pendant 11 années. Et quand il a été projeté, bon, l'épisode post-colonial français était terminé. Oui, je n'ai pas de titre présent à l'esprit. Quand on est gosse, on ne se soucie pas des titres. On avale, on absorbe ces images merveilleuses et toujours un peu tristes parce qu'elles semblent venir de pays sans soleil ou alors d'un jour d'éclipse où l'astre solaire s'est absenté. Bon, on était un peu chagrin, mais c'est une mélancolie douce qui n'était pas sans charme. Peut-être que l'enfance n'y ajoutait pas peu.
Est-ce qu'il y a, je crois qu'on va peut-être pas trop tarder à devoir libérer la salle, mais je pense qu'on a une dernière, une ou deux dernières. Alors, vous avez vu hein, la méthode, je tiens, mais...
Oui, on fait comme ça. Oui, bah, merci beaucoup d'avoir organisé cette projection et merci aussi de cette parole. Et j'avais une question pour vous, Pierre Bergougnou. Je me demandais précisément comment vous-même avez rencontré ces arts primitifs ou ces arts nègres. Et bon, pour reprendre la terminologie de l'époque, est-ce qu'il y avait des lieux particuliers? Est-ce que c'est quand vous êtes arrivé à Paris? Est-ce qu'il y a des lieux particuliers où on voit cet art dans l'espace privé ou dans l'espace public? Je pense au Musée de l'Homme, par exemple. Et du coup, aussi, avec quelle appréhension? Est-ce qu'il y avait déjà un peu ce regard critique sur ces œuvres-là ou d'abord une approche esthétique un peu plus, disons, un peu plus spontanée et moins critique? Voilà, je vous remercie.
Alors, ma première rencontre avec l'art nègre doit dater de ma sixième ou de ma septième année. C'est sur les plats de couverture d'une collection de livres imprimés sous le timbre de la Toison d'Or. Il s'agissait de reportages coloniaux. Il y avait toujours une jaquette qui représentait habituellement un chasseur blanc, l'express, fusil de chasse sur les épaules, pendant que des noirs en pagne portaient, accrochés à une perche, une bête tachetée. Alors, il arrivait parfois que la jaquette soit déchirée ou même absente. Et qu'est-ce qu'on voyait sur le plat de couverture? Une rose des vents qui partageait le plat en quatre cadrans. en haut à gauche, il y avait un truc bizarre, un masque qui ressemblait à un scarabée. En regard, un éléphant qui laissait entendre par magie sympathique que le masque était africain. En symétrie inversée, un lucane, un cerf-volant qui ressemble beaucoup au masque africain. Et de l'autre côté, un cerf. Bon, en vertu de l'affinité entre le cerf-volant et le cerf terrestre. Naturellement, c'est le masque qui m'avait sauté aux yeux. Et il faut me croire, je me suis dit, c'est africain. Ça a quelque chose à la fois de sauvage et de hautement maîtrisé. Sont aux prises d'un côté des énergies diaboliques et de l'autre, je ne sais trop quelle sagesse profonde dont le petit morveux de 6 ans que je suis est absolument dépourvu. J'avais trouvé ce masque, bon, c'est le masque Sénoufo qu'on appelle Kpélié ou Kpéligué ou Kodellé et qui doit toujours se trouver par paire parce qu'il accompagne l'âme au pays de la mort. Et pour parer à toute éventualité, il en existe de doubles, de géminés. Comme ça, en quelque circonstance que ce puisse être, on aura toujours un nombre pair de ce masque Kpélié. Et le deuxième masque, je me vanterai bien volontiers, je vous dirais que c'était un baoulé, mais je dois me tromper, se trouvait dans l'anfractuosité d'un buffet de corps de style Henri III en chêne noircie, d'une vieille dame complètement folle, à laquelle nous rendions visite, mes parents, mon frère et moi, chaque année, au 1er janvier, sans que j'ose m'avouer à moi-même, ni dire tout haut qu'elle était folle à lier. Alors c'était un instant de grand ennui, d'ennui corrosif, mortel, comme seuls les gens de mon âge l'ont connu lorsqu'ils étaient enfants. On ne bougeait ni pied ni patte, on ne nous entendait pas. On ne desserrait les dents qu'autant que l'on y était invité. Donc tous les ans, c'est la même séance interminable du 1er janvier, de 1h30 de l'après-midi, que la fête commence à 7h du soir, que nous prenons congé pour retourner dans la nuit glacée. Je m'ennuie comme un chien, comme deux chiens, comme 100 chiens. Et puis, à la dernière extrémité, je pense que c'est 1959 ou 60. Je vois que quelqu'un me fait face et me voit dans la fractuosité du buffet de corps. Alors je me dis, même si je n'ai pas le mot, c'est une illusion d'optique, une persistance rétinienne. En bougeant la tête, je vais bien voir que ce sont les boîtes de médicaments et les flacons médicinaux de gouttes qui produisent cette impression de visage. Or, j'ai beau aussi discrètement que possible bouger la tête, ce visage noir, majestueux, serein, beau, continue de me faire face. Alors je ne peux pas parler parce que c'est la vieille dame qui s'en charge et mon père qui fait la réponse. J'attends qu'on sorte pour demander. Je demanderai deux choses. La première, pourquoi que c'est-il qu'on va voir cette vieille dame est-ce? Et on me donnera la réponse parce que j'ai 9 ou 10 ans. Ma grand-mère s'est trouvée veuve de guerre à 28 ans avec deux nourrissons sur les bras. Ce qui a été le cas de centaines de milliers, de millions de jeunes femmes entre 1914 et 1918. Elle était tentée comme Jeanne et Buterne, qui était la compagne de Modigliani, dont nous parlions, de se jeter par la fenêtre du haut du 5e étage, enceinte de 9 mois. C'est arrivé. Mais celle qui n'avait pas toujours été une vieille dame avait secondé, soutenu ma grand-mère lorsqu'elle s'était retrouvée veuve de guerre avec ses deux nourrissons sur les bras, et sans doute lui avait sauvé la vie. Et mon père, par une sorte de piété filiale, nous traînait, preuve vivante que la vie avait continué, tous les 1er janvier, chez la vieille dame, pour fêter la bonne année. Donc j'ai eu la première explication, mais parce que Madame C avait, tu sais, beaucoup aidé ta grand-mère Gabrielle. La deuxième, elle avait dans sa parentèle, c'était encore assez fréquemment le cas dans les familles françaises, un petit neveu qui travaillait dans l'administration coloniale. Et qui lui avait expédié comme ça un masque, je pense que c'était un masque ivoirien, du sud de la côte d'Ivoire. Mais naturellement, je n'avais pas dans ma famille personne qui travaillait. Si, on avait un médecin-major, mais il travaillait au Tchad, c'est-à-dire en pays musulman, en dehors des foyers de l'art animiste. Donc j'ai pleuré, enfin des larmes rentrées, bien sûr, de n'avoir pas de ces masques splendides en provenance de l'Afrique, parce que je n'avais pas le bonheur d'avoir un proche pour exercer quelques emplois dans une région fertile en expression plastique. Alors, il y a une loi, il y en a plusieurs, mais rien ne se perd ni ne meurt dans la grande temporalité. Il y en a une autre, de Freud, dont on parlait tout à l'heure, l'âge adulte ne sert à rien. Si, si, c'est écrit noir sur blanc, qu'à exaucer les désirs irréalisés de l'enfant que l'on fut. D'une main qu'on s'ignore, on note tout. Ou alors, il y a près de nous un archange qui tient registre de chacun de nos actes, de chacune de nos pensées, dans son grand livre immatériel, mais très réel. Donc, je crois oublier les éditions de La Toison d'Or. Le masque peut être baoulé, ivoirien de la vieille dame folle. On est le 4 juillet 1984, ça fait un bail. Et je déambule bien tranquillement sur le boulevard du Gommier de Marseille. Ça peut arriver à n'importe qui. Marseille est richement colorée avec ses toits de tuiles romanes, canal, et pas du tout comme l'a montré parfois les films en noir et blanc. Et d'un seul coup, je vois, me faisant face à environ un mètre, le masque pélier de la Toison d'Or qui me fait face, tandis que le gamin de 6 ans qui regardait de tous ses yeux ses plats de couverture me cramponne par le bras, me pousse dans le dos pour que je lui procure enfin ce masque dont il avait toujours rêvé. Voilà, vous savez tout.
Non, je trouve que c'est une... C'est presque faire du montage, là, mais je crois que c'est une belle fin, non? Alors, merci beaucoup, Pierre Bergougnou. Vraiment, merci. Voilà. Et puis, l'intrusion du grand dehors, ben, c'est ce qu'on peut se souhaiter à tous au maximum. Voilà. Merci beaucoup.